Et pardon, 5h43 en temps universel. À suivre sur RFI, la revue de presse des hebdomadaires français qui reviennent cette semaine sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'Afrique en marche en ce dimanche de Pâques où les chocolats seront consommés sans modération, découverte d'un des deux seuls chocolatiers du Bénin, parce que le Bénin est lui aussi producteur de fèves de cacao, et ça on le sait moins. Tout cela avant un nouveau journal d'actualité internationale, mais d'abord, place au sport. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Du football à la une et le triomphe des jeunes Marocains, nouveaux champions d'Afrique des moins de 17 ans.
Oui, finaliste malheureux de la précédente édition en 2023. Le Maroc succède à l'Algérie et remporte sa première CAN dans cette catégorie. Une victoire à domicile et au bout du suspense face au Mali. Comme en demi-finale, les Lionceaux de l'Atlas ont dû attendre les tirs au but pour s'imposer 4-2. Écoutez la joie du sélectionneur Nabil Baha.
C'est une grande fierté pour moi. C'est ma première expérience en tant qu'entraîneur principal. C'est merveilleux. Ça va me permettre de grandir. J'ai appris énormément tout au long de cette année. Nous sommes les premiers à avoir gagné cette Coupe d'Afrique dans cette catégorie, donc on sera jamais dans l'histoire. Et je savais que ça allait être un match difficile, mais bon, les garçons ont répondu présent, il y avait de la fatigue. Du côté malien aussi, je pense qu'il y avait de la fatigue. Pas que de la fatigue physique, de la fatigue aussi mentale. Mais j'ai jamais douté de mon équipe, et sincèrement, j'ai jamais eu le titre me filer entre les mains. On voit sur toute la compétition, on a développé un bon football. Les joueurs tactiquement étaient très intelligents, en place. Ils ont respecté tous les plans qu'on a mis en place contre chaque équipe. Je pense que c'est un trophée amplement mérité.
Nabil Baha, le sélectionneur des moins de 17 ans marocains, au micro de Mathias Reynal.
Toujours en football, l'autre événement du jour, c'était le début des demi-finales de Ligue des Champions.
Et là non plus, Marion, les attaques ne se sont pas distinguées. 0-0 lors du match aller entre les Orlando Pirates de Johannesburg et les Égyptiens du FC Pyramids. Score nul et vierge également à Pretoria pour le grand classique du foot africain, Mamelodi Sundowns Al Ahly. Avec des principes de jeu très défensifs, le double tenant du titre est parvenu à contenir l'équipe sud-africaine. Un assez bon résultat avant de recevoir le match retour au Caire. En tout cas, l'entraîneur Marcel Koller s'en satisfait.
C'était un bon match entre deux équipes de haut niveau. Je pense que de notre point de vue, nous avons joué de manière très rigoureuse. Parce qu'on avait bien analysé le jeu des Mamelodi Sundowns, leurs points forts, leurs faiblesses. On en a fait part à l'équipe et ils l'ont vraiment bien pris en compte. Nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions, nous avons quand même réussi à attaquer jusqu'à toucher le poteau. Mais ce n'était que la première moitié du chemin. On doit garder cette extrême concentration pour le match retour, parce que nous savons que les Sundowns peuvent aussi marquer des buts à l'extérieur. Donc pour le match retour au Caire, on devra vraiment retrouver cette concentration sur le terrain et cette intelligence dans notre jeu.
Propos recueillis par Valentin Hugues. Rendez-vous vendredi prochain pour les demi-finales retour de cette Ligue des Champions. En attendant, aujourd'hui, place au match aller du dernier carré de la C2, la Coupe de la Confédération. Les Tanzaniens de Simba Sport accueillent l'équipe sud-africaine de Stellenbosch à 13h temps universel. Et puis à 19h TU, Marion, duel entre les Marocains de Berkane et les Algériens de Constantine.
Enfin, en basket, Victor, les phases finales de la NBA ont débuté hier soir. Des playoffs qui commencent bien pour Pascal Siakam.
Oui, le Camerounais, meilleur marqueur de son équipe avec 25 points. Et surtout, ces Indiana Pacers ont survolé la première manche de leur série face aux Milwaukee Bucks, 117 à 98. Il faut remporter 4 matchs pour passer au tour suivant, c'est-à-dire en demi-finale de conférence. Rendez-vous mardi soir pour le match 2 de cette série entre Bucks et Pacers.
Et pour vous, Victor Missistrano, rendez-vous dans une demi-heure à peu près pour un nouveau journal des sports. On feuillette à présent les hebdomadaires français avec vous. Théo Renaudon, bonjour.
Bonjour.
À la une, Théo, comment la Chine s'est-elle préparée au grand choc commercial avec les États-Unis ?
Combien de temps durera cette guerre ? Ce n'est pas nous qui pouvons le décider. Quelle qu'en soit la durée, nous ne céderons jamais. On se battra jusqu'au triomphe.
Ce qu'on vient d'entendre, Marion, c'est Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine. On est en pleine guerre de Corée, discours prononcé le 7 février 1953, très exactement, alors que la Chine défend ce qui deviendra la Corée du Nord face aux forces américaines alliées qui, elles, défendent le Sud. Un discours avec une forte résonance actuelle, cité par l'hebdomadaire français L'Express, qui nous offre cette semaine un important dossier sur comment la Chine se prépare depuis des années au choc commercial avec les États-Unis. Loin de faire allégeance à Donald Trump, le géant asiatique rend coup pour coup les taxes douanières du président américain, plus 145% depuis ce lundi.
Une réponse que la Chine risque de payer au prix fort.
Oui, mais elle est prête à le faire, Marion. D'ailleurs, ça a déjà commencé, note l'Express. Amazon annule des commandes en provenance de Chine et des bateaux chargés de marchandises qui devaient prendre la mer restent à quai dans les ports de Shanghai. Le régime chinois est persuadé que Washington jettera l'éponge en premier et s'accroche à des signes. Par exemple, Donald Trump a déjà cédé sur les ordinateurs, les smartphones et autres produits high-tech chinois. Plus aucune taxe pour eux pour entrer sur le territoire américain.
Pourtant, sur le papier, la Chine est largement désavantagée, selon l'Express.
Oui, Pékin exporte bien plus aux États-Unis qu'elle n'importe, mais c'est sans compter sur des leviers que Washington n'a pas. Le régime autoritaire chinois peut, rappelle l'Express, limiter les sorties de ses capitaux. Et sa propagande n'aura aucun mal à faire penser aux ménages chinois. C'est la faute à Trump en cas de baisse substantielle du niveau de vie.
Pendant ce temps, cet affrontement commercial effraie l'Europe et son industrie.
L'empire est à venir. Cette déferlante chinoise qui menace la France, titre Marianne, qui rapporte cette semaine, page 17, que les capitaines d'industries européens craignent une balle perdue dans cet affrontement. L'UE, deuxième marché de consommateurs du monde, si les exportations chinoises ne vont plus aux États-Unis, alors elles risquent de déferler sur l'Europe. Millions d'objets à prix moindre, risques aggravés pour des pans entiers de l'économie française dont Marianne fait la liste. Et en première ligne, l'automobile, suivi de la bagagerie, puis viennent les fabricants de câbles électriques, de meubles et de robinets.
Et toujours dans l'hebdomadaire français, Marianne, l'apaisement, c'est du vent entre la France et l'Algérie.
Après l'expulsion de 12 agents diplomatiques français par Alger, Marianne revient sur la désescalade espérée au départ entre les deux pays avant ce regain de tension. Illusion. Le voyage de Jean-Noël Barrot en Algérie le 6 avril n'était qu'un leurre, déplore le magazine. Alger n'a en fait promis aucun geste, pas de retour de l'ambassadeur algérien en France, rappelé par son pays depuis juillet dernier, pas de date pour une libération de l'auteur franco-algérien Boualem Sansal, retenu en Algérie arbitrairement depuis 5 mois, aucune amélioration quant à l'application des mesures d'éloignement prononcées contre des Algériens, relève Marianne. Viennent donc ces expulsions d'agents diplomatiques, réaction de l'Algérie à la détention d'un de ses agents consulaires accusé d'avoir fomenté l'enlèvement d'un opposant politique algérien sur le sol français. Pendant que l'Élysée tergiverse, souffle Marianne, les problèmes perdurent et s'aggravent.
Enfin, Théo, immigration, le conclave de la gauche organisé par le Nouvel Observateur.
L'hebdomadaire français a enfermé une trentaine de personnalités de la gauche française dans ses locaux politiques, patrons d'ONG ou membres de la société civile. Le but, parler immigration, thème très présent dans le débat public français, porté essentiellement par la droite et l'extrême droite qui dénonce régulièrement une invasion migratoire. La gauche, elle, selon le Nouvel Observateur, peine à exprimer sa propre vision et un contre-discours.
Et alors, qu'est-ce qui est sorti de cette réunion ?
Eh bien, 12 propositions que liste le Nouvel Observateur, parmi elles, permettre aux citoyens français, par exemple, de parrainer des candidats à la citoyenneté ou encore proposer systématiquement l'enseignement du français à l'ensemble des étrangers qui arrivent sur le territoire pour la première fois, des ovnis dans le débat public français marqué par une poussée des conservatismes.
Théo Renaudon pour la revue de presse.
RFI à Cotonou, 90 FM. Paracou, 106.1 FM.
Des millions de chrétiens célèbrent aujourd'hui Pâques, que ce soit les catholiques, les protestants ou les orthodoxes, une fête religieuse accompagnée souvent de petites douceurs puisque la tradition veut que l'on mange du chocolat, que l'on s'offre du chocolat fabriqué à partir de cacao qui vient la plupart du temps de Côte d'Ivoire, du Ghana, de Madagascar, mais un autre pays en Afrique produit aussi des fèves et on le sait moins, c'est le Bénin. Et encore plus rare dans le pays, les chocolatiers, ils sont deux seulement. Pour l'Afrique en marche, Frédéric Gara nous fait découvrir l'un d'entre eux qui a créé la marque Oco Choco. Et cette chronique est une rediffusion.
C'est des produits de chocolat, essentiellement noir, 70% avec de la noix de cajou. Et en dehors de ça, on a des tablettes de lait.
C'est à Paris, au Salon du Chocolat, que Maxime Elekbédé, ancien cadre de banque, présente ses différentes créations. Oco Choco, c'est l'histoire d'une reconversion chocolatée et réussie.
C'est accidentellement que j'ai embrassé cette profession de chocolatier parce que j'ai découvert qu'il y avait du cacao au Bénin. Les paysans étaient forcés un peu à vendre ce cacao-là aux Nigériens, aux règles des Nigériens. Et je leur ai promis que j'allais acheter le chocolat à un meilleur prix. Et depuis 4 ans, on travaille exclusivement avec du cacao du Bénin.
Bien sûr, quand on vient de la finance, on ne s'improvise pas chocolatier du jour au lendemain. Et si Maxime Elekbédé réussit, avec ses 10 salariés, à transformer 5 tonnes de fèves béninoises tous les ans, c'est parce qu'il a été à bonne école.
Quand je prenais mes vacances, au lieu d'aller au bord de la mer, j'allais apprendre à faire le chocolat. Je suis allé dans plusieurs pays. Je vais citer une seule personne. Christophe Bertrand, de la chocolaterie Reine Astrid. Il est d'une ouverture d'esprit extraordinaire. L'année dernière, il a payé le billet d'avion pour un de ses employés qui est venu passer 2 semaines à Cotonou. Avoir une personne qui est ce niveau d'ouverture d'esprit, c'est pas facile. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça existe toujours. Et il faut rechercher ces personnes-là et leur rendre hommage aussi.
Christophe Bertrand, le patron des chocolats, la Reine Astrid.
Un autre moyen d'améliorer le revenu des planteurs de cacao, c'est aussi de tirer la consommation vers le haut, et notamment en faisant consommer du cacao dans les pays producteurs de cacao, puisqu'aujourd'hui, ils n'en consomment pas. Après, ce qui est toujours très difficile pour eux, c'est qu'ils n'ont pas les machines qui vont bien. On était au Cameroun il y a 3 semaines, on a visité une société qui s'appelle Chocotéré, ils ont une petite machine made in Cameroun, la machine ne tourne pas assez vite, le chocolat ne monte pas en température, on ne fait pas envoler l'acidité. Ce qui est important, c'est que ces gens-là soient accompagnés, et je pense essentiellement, nous, chocolatiers français, belges, etc., on peut, simplement en donnant un peu de temps, les aider.
Ce qui fait la saveur de cette aventure chocolatée, ce sont aussi des rencontres humaines. Au Bénin, le cacao 70% de Maxime Elekbédé a séduit des boulangers et des restaurateurs.
Alors, on fait une mousse au chocolat chaud, avec son chocolat, un petit caramel mou dessus au beurre salé. Je m'en sers pour faire des chouquettes, des crémeux et un sorbet au chocolat.
À Calavi ou à Cotonou, dans ses restaurants, le chef français Jimmy Nival utilise l'Oco Choco dans tous ses desserts.
Maxime se donne du mal à faire ce qu'il fait et il se donne à fond dedans. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est avec des petits producteurs. Il y a le chocolat et puis après, moi, je dirais qu'il y a le bonhomme qui va avec. Donc pour moi, ça fait un ensemble et je trouverais ça dommage d'en importer alors que celui qu'on a ici, franchement, il est très très bien. C'est vraiment une valeur ajoutée de pouvoir dire que c'est du Bénin. Du coup, c'est valorisant.
Le corollaire de la transformation locale des fèves en chocolat fin, c'est l'application des cacaoculteurs et la qualité des fèves produites. Julien Tissera, ingénieur agronome pour la marque de chocolat Étiquable.
On voit cette dynamique-là dans tous les pays. Moi, je l'observe à Madagascar, on le voit aussi en Côte d'Ivoire, au Togo. Et il y a des coopératives au Togo qui commencent à produire aussi des tablettes de chocolat. Nous, la SEB, avec qui on travaille en Côte d'Ivoire, là, se lance aussi dans la production de tablettes de chocolat. En tout cas, je pense que ça peut être un bon complément pour apporter une valeur ajoutée et diversifier les revenus de ces acteurs-là et aussi des coopératives. Et ça peut être aussi une manière d'augmenter les références et les normes de qualité au niveau des fèves de cacao. Donc ça va dans le bon sens, à mon avis.
L'émulation entre cacaoculteurs et chocolatiers permettra sans doute un jour à tous les Béninois de manger un chocolat haut de gamme, made in Bénin. C'est en tout cas le rêve de Maxime Elekbédé.
La chronique L'Afrique en marche de Frédéric Gara, qui était une rediffusion ce dimanche. En tout cas, cette année, le chocolat est un peu plus cher en raison de la flambée des prix du cacao, flambée due aux mauvaises conditions météo qui ont plombé les récoltes en Afrique de l'Ouest. La région fournit 70% des fèves dans le monde. 7h57 à Paris. Dans quelques minutes, un nouveau journal d'actualité internationale. On fait un tour en attendant dans la playlist musicale de RFI. On y écoute Lauriane Zachary et son titre Yelelelelai, j'espère que je l'ai bien prononcé.
Je t'ai la tenue, bel soleil. Ça qui fait entre nous, c'est magique. Sois au tes ciel. Au mélodie pour mon romantique. Et puis des yeux, t'en veux moi. Bagaille là, t'es grand, on loi physique. Les lambes, on caresse, en moi. Et sous son jet, musique là, nous chanter. Yé-lé-lé-lé-la. Yé-lé-lé-lé-la. Bon Dieu doit te mettre en main. Tout ça mettez nous plus haut. L'aile à l'île en cas monté. Nous toujours qu'on débat ta vie. Mais pas si spontan nous qu'a dit. En nous chanter. Yé-lé-lé-lé-la.
Lauriane Zachary et son titre Yélélélélé, et beaucoup de syllabes à retrouver sur notre playlist du mois. Restez avec nous dans quelques secondes. C'est le journal de Simon Bourtembourg.